Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée législative, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture de la deuxième session de la 35e législature de la province d'Ontario. J'ai le plaisir de vous annoncer en ouvrant cette session que Sa Majesté la Reine Élisabeth II, souveraine du Canada, visitera la capitale nationale du 30 juin au 2 juillet, à l'occasion des célébrations marquant le 125e anniversaire de la Confédération. Nous formons une population très diversifiée, venant de tous les coins du monde. Nous vivons et travaillons au cœur de ce pays, le Canada, que nous aimons et que nous voulons renforcer. Nous sommes une communauté vraiment cosmopolite qui évolue dans une économie mondiale. Nous croyons fondamentalement que l'objet d'une économie dynamique, productive et concurrentielle est d'assurer à la population santé, sécurité et prospérité. L'expérience des derniers mois et des dernières années nous montre toutefois qu'il ne faut rien tenir pour acquis. Nous devons apprendre et comprendre la façon de mieux faire les choses nous-mêmes. Il faut nous débarrasser du mythe selon lequel la société doit choisir entre humanité et productivité, entre compassion et efficacité. L'Ontario, dans les plus fiers moments de son histoire, a toujours essayé de réunir ces deux qualités. Nous allons donc gérer les ressources publiques de façon plus rationnelle et plus efficace, de sorte que nous puissions continuer à bâtir une société plus juste. La protection de l'environnement constitue un aspect essentiel d'un véritable progrès, et une économie plus soucieuse de la conservation de ses richesses s'avérera en fin de compte source de vigueur et de compétitivité. Pour notre génération et celle qui nous suit, c'est là une réalité que nous devons en aucun cas ignorer si nous ne voulons pas l'hypothéquer à l'avenir. Nous devons être prêts à adopter une stratégie de longue haleine, à comprendre l'importance de l'apprentissage et de la connaissance, à célébrer le fait que nous constituons une société cosmopolite, à encourager une collaboration réelle entre les gouvernements, les entreprises, le monde du travail et les collectivités, et à briser les murs de solitude que nous ne pouvons plus nous permettre de dresser entre nous.
Nous n'avons traversé de période aussi critique pour notre province et pour notre pays. L'année qui vient décidera peut-être de l'avenir du Canada. Notre gouvernement prend une part active au débat intense engagé entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones, afin de réaliser un fédéralisme renouvelé. Capable d'unir le Canada, il ne faut faire preuve de créativité et de souplesse. Rien d'autre ne pourra assurer l'avenir de nos enfants. And so too with the economy.
Il va de même de l'économie. Notre gouvernement, comme tous les autres gouvernements au Canada, a dû faire face à la récession la plus persistante et la plus profonde qu'ait connue le Canada depuis les années 30. C'est là un énorme défi. Malheureusement, des signes inquiétants indiquent que cette récession n'a pas, comme on l'avait prédit, relâché son emprise sur quelques-unes des économies les plus puissantes du monde. Mais notre province a encore d'autres défis à relever. L'Ontario a perdu plus d'une bataille de mots dans l'accord de libre-échange. Mise en œuvre sans mesure d'adaptation, le libre-échange a dévasté le secteur manufacturier ontarien, sabrant des dizaines de milliers d'emplois dans diverses localités de la province. S'ajoutant à la taxe sur les produits et services, au taux constamment élevé d'intérêts réels et la surévaluation du dollar, les nouvelles ententes commerciales entre le Canada et les États-Unis sont loin d'avoir été avantageuses pour l'Ontario. Aujourd'hui, il y a également lieu de s'alarmer à la perspective d'un accord de libre-échange nord-américain animé par des objectifs politiques qui se soucient fort peu du bien-être des entreprises et des travailleurs de la province. Notre gouvernement a fait savoir en termes non équivoques au gouvernement fédéral que le temps n'est pas à l'aventurisme économique aux dépens de la main-d'œuvre ontarienne, surtout pas au moment où les négociations de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce laissent présager de profonds changements à l'échelle mondiale. La décision du gouvernement fédéral de plafonner les paiements de transfert aux provinces, prise au moment même où la récession nous assiège de toutes parts, constitue une modification unilatérale des règles fondamentales du fédéralisme, et ce qui est tout à fait inacceptable pour les contribuables de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario ne peut régler seul tous les problèmes économiques pas plus que nous ne pouvons compter sur les autres pour améliorer notre situation. Nous devons faire nous-mêmes tout ce qui est en notre pouvoir. C'est pourquoi le gouvernement a déjà lancé un plan de reprise économique, une stratégie d'investissement en vue de construire un avenir plus prospère en cette période de profonde transformation. Nous investissons aujourd'hui dans la population et l'économie de l'Ontario afin de bâtir une société dynamique au sein de laquelle tous les Ontariens et Ontariennes seront traités de façon juste et équitable. Aujourd'hui, nul sujet n'est plus important pour la population de l'Ontario que celui de la relance économique. Faire notre part pour bâtir une économie plus vigoureuse, voilà la grande priorité de notre gouvernement. L'investissement dans l'entreprise. Notre stratégie d'investissement est fondée sur la conviction profonde qu'une économie saine repose sur un secteur commercial florissant. Les assises de l'économie ontarienne demeurent nos industries manufacturières et le secteur des ressources naturelles. Notre province est également le cœur financier du pays et le foyer d'un important secteur des services qui est en pleine croissance. Les tendances actuelles à la mondialisation et à la libéralisation des échanges ont forcé notre économie, à l'instar de bien d'autres, à se restructurer et à s'adapter à des conditions nouvelles. Nombre d'entreprises ontariennes relèvent le défi et, se lançant à la conquête des marchés internationaux, s'y taillent une place prépondérante. Notre province est sans contredit l'un des meilleurs endroits au monde pour faire des affaires. Ainsi, la société Delcan International de North York a obtenu récemment un contrat de 36 millions de dollars pour la conception et la construction de deux usines ultramodernes d'épuration des eaux usées au Venezuela. Il y a aussi Sandoz Limited de Whitby, une compagnie pharmaceutique qui s'est vue confier par sa société mère en Suisse la production et la distribution du néocitran pour tout le marché nord-américain. La maison Babcock & Wilcox de Cambridge a pris la tête du consortium du groupe Ontario pour conclure un contrat de 900 millions de dollars pour la conception, la construction et la mise en service d'une centrale thermique de 1100 MW en Iran. Ces travaux entraîneront des achats des produits et services de l'ordre de 400 millions de dollars pour les entreprises ontariennes qui y participent. Le gouvernement salue le remarquable rétablissement de Magna Limited, une importante entreprise dans le domaine des pièces automobiles. Face à un défi, le gouvernement est toujours disposé à faire preuve de créativité en proposant des solutions et en aidant les entreprises, les collectivités et les travailleurs et travailleuses à trouver des façons différentes de se tailler un nouvel avenir.
Tant investi dans l'usine Spruce Falls à Kapuskasing et dans l'Algoma Steel à Sault Ste. Marie ont permis de sauvegarder des emplois dans ces localités tout en ouvrant de nouveaux horizons pour la participation des travailleurs et travailleuses à la propriété de l'entreprise.
L'investissement stratégique du gouvernement à titre d'actionnaire minoritaire de la compagnie de Avalon a déjà porté des fruits. En effet, la société qui reprend sa vigueur a annoncé récemment un nouveau contrat de vente d'avions et des projets pour la production d'une nouvelle série d'appareils d'H-8. À la suite de la vente de la maison Bombardier, la société de développement du transport urbain s'est également assurée un avenir plus stable et fait maintenant partie de la plus grande entreprise manufacturière nord-américaine dans le domaine des réseaux de l'équipement de transport en commun. Lorsque la situation s'y prête, le gouvernement peut jouer un rôle stratégique en collaborant avec le secteur privé à titre de partenaire ou de co-investisseur. L'aide que nous avons apportée au projet de trois compagnies, DevTech Corporation et Ortech International de Mississauga et Stewart & Stevenson Power Incorporated, contribuera à la commercialisation d'un système à injection de gaz naturel à faible consommation de carburant. L'automne dernier, le gouvernement a signé un protocole d'entente avec la Société des industries du plastique du Canada afin de collaborer avec cette industrie ontarienne en pleine expansion qui fait des pas de géant sur le marché mondial. Le gouvernement appuie la création de l'Industrial Research and Development Institute à Midland. Cet établissement, qui se spécialise dans les techniques poussées d'outillage, d'ajustage et de moulage, est un exemple unique de partenariat réunissant le secteur privé, le monde de l'éducation et le gouvernement dans le but d'améliorer la position concurrentielle du Canada grâce à la recherche appliquée et au développement. Le groupe de travail de l'industrie forestière, composé de représentants des entreprises, des syndicats et du gouvernement, a élaboré des solutions novatrices pour favoriser l'industrie forestière. Nous avons la ferme intention de continuer à investir dans l'emploi et l'entreprise en Ontario. Le gouvernement continuera d'aider un grand nombre de petites et moyennes entreprises ontariennes à se préparer à une future expansion. De plus, nous intensifierons nos efforts auprès de groupes de sociétés représentant des secteurs clés de notre économie pour élargir notre base de compétences, de connaissances et d'innovation, afin d'améliorer la compétitivité de l'Ontario sur les marchés internationaux. Nous annoncerons de nouvelles affectations de fonds visant à faciliter la mise au point de produits fabriqués en Ontario et à promouvoir énergiquement nos réalisations à l'échelle mondiale. Le gouvernement annoncera également des mesures pour aider le secteur de l'agriculture, qui a été durement touché par la récession et les politiques commerciales internationales. Nous avons déjà lancé le programme de garantie d'emprunt pour les produits agricoles, qui vise à aider les exploitations agricoles à faire face à leurs obligations financières ce printemps. Dans le cadre de ce programme, nous prévoyons qu'une somme de plus de 50 millions de dollars pourra être prêtée aux agriculteurs cette année. Cette somme pourra atteindre 100 millions de dollars les années suivantes. Bien que le gouvernement fédéral n'ait pas encore répondu à l'invitation que nous lui avons lancée d'investir dans l'infrastructure de l'Ontario, notre gouvernement continuera cette année à consacrer des milliards de dollars à des travaux d'infrastructure d'une importance vitale dans les domaines du transport, du logement, de l'éducation, des communications et de la protection de l'environnement. Nous agirons de concert avec Hydro-Ontario et avec les administrations locales et régionales, tout en continuant à solliciter la participation du gouvernement du Canada. Plus tard ce printemps, le trésorier dévoilera les détails de nos projets visant à acheminer les ressources financières vers des activités favorisant la croissance économique en vue de concrétiser l'engagement du gouvernement à l'égard de la modernisation de notre infrastructure, de nouveaux mécanismes d'investissement. Une des principales difficultés que doit surmonter l'Ontario est d'accéder aux fonds d'investissement qui permettront l'exécution de nouveaux projets et l'expansion des entreprises. Le gouvernement apprécie les judicieux conseils en matière de stratégie d'investissement que lui prodigue le Conseil du Premier ministre sur le renouveau économique. Au cours des prochaines semaines, nous entreprendrons des consultations sur l'établissement d'un fonds d'investissement de l'Ontario conçu pour augmenter, de façon volontaire, les investissements productifs provenant des régimes de retraite ontariens. En effet, il est difficile d'imaginer un meilleur usage pour les caisses de retraite ontariennes que ce moyen de stimuler l'emploi dans la province, tout en offrant un bon taux de rendement du capital investi pour notre main-d'œuvre active et à la retraite. Le gouvernement s'emploiera à restructurer les services liés à l'investissement qui sont offerts par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. Le Bureau de développement des investissements mettra en place un service intégré d'accueil et d'orientation à l'intention des entreprises qui veulent investir et prendre l'expansion en Ontario. Un projet de loi sur la participation des travailleurs à la propriété des entreprises sera présenté en dernière lecture à l'Assemblée législative. Les credit unions et les autres mouvements coopératifs jouent un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit d'épauler les petites entreprises et de faciliter les investissements communautaires. Au cours de la session, l'Assemblée poursuivra l'étude du projet de loi sur les sociétés coopératives ainsi que d'autres positions portant sur la réforme des credit unions. Nous y voyons des solutions novatrices qui répondront à nos besoins en nouveaux investissements. Les municipalités disposeront d'une plus grande marge de manœuvre quand il s'agira d'emprunter et d'investir. L'investissement dans l'environnement. Au cours des années 90 et au début du 21e siècle, on assistera à la convergence des préoccupations environnementales et des impératifs économiques. Consommateurs, entreprises et gouvernements devront s'adapter à de nouvelles réalités. Les initiatives de restructuration verte se multiplient déjà par la suite de l'évolution, de l'intérêt accru pour des produits écologiques et des progrès de la technologie. Notre programme d'investissement comprend une stratégie éco-industrielle à l'appui de nos objectifs environnementaux et permettra à l'Ontario d'être à l'avant-garde dans la production et l'exportation de biens et de services écologiques. Nous avons récemment conclu avec la General Electric du Canada une entente en vertu de laquelle la compagnie concentrera en Ontario la production de ses produits d'éclairage éco-énergique, destinés à l'ensemble du marché nord-américain. L'Ontario continue a marqué des points dans le domaine du rendement énergétique et compte bien devenir un chef de file en l'an 2000. Le programme Éco-énergie à domicile de Hydro-Ontario, actuellement en cours, consiste à préparer des bilans énergétiques et à les remettre aux ménages participants qui pourront réaliser des économies totalisant 350 millions de dollars. Les programmes de gestion de la demande d'Hydro-Ontario permettront cette année d'épargner 170 millions et entraîneront la création de plus de 10 000 emplois. Au cours de l'année prochaine, la Commission sur la réforme de l'aménagement et de l'exploitation du territoire de l'Ontario, la Commission Sewell, formulera des recommandations grâce auxquelles le processus d'aménagement du territoire deviendra vraiment efficace et responsable sur le plan de l'environnement. Un groupe consultatif sur la Charte des droits environnementaux, formé de membres d'organismes voués à la protection de l'environnement et de gens d'affaires, devrait être en mesure de présenter son rapport ce printemps. Un projet de loi serait déposé cette année à ce sujet. Le gouvernement souligne le travail productif de la table ronde de l'Ontario sur l'environnement et l'économie et attend avec intérêt d'ici peu ses recommandations pour une stratégie de développement durable. La rationalisation de la réglementation. Le système de réglementation de l'Ontario est surchargé. Tous les règlements, lois et processus particuliers ont leur raison d'être, mais leur accumulation au fil des ans a produit un effet sclérosant. Notre stratégie d'investissement nous amènera à éliminer un grand nombre de ces obstacles. De nouvelles ressources permettront de venir à bout de l'arriéré de dossiers qui se trouvent devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Nos efforts pour accélérer le processus commencent déjà à donner des résultats et nous entendons bien ne pas nous arrêter là. La semaine dernière, dans le cadre d'une stratégie d'envergure visant à stimuler la reprise économique urbaine, nous avons nommé un facilitateur chargé de piloter certains projets d'immobilisation d'une importance vitale. En vue de simplifier la réglementation, nous mettrons sur pied un groupe de travail qui aura le mandat de repérer et d'éliminer les règlements superflus ainsi que les obstacles qui pourraient se poser. Le gouvernement se gardera de procéder à une déréglementation qui pourrait s'avérer destructive. Ainsi, en ce qui touche les évaluations environnementales, la réforme en cours vise à créer un processus plus simple, plus rapide et plus clair, sans pour autant affaiblir les normes environnementales de l'Ontario.
Dans ce domaine, les actes comptent plus que les paroles. Récemment, la rapidité avec laquelle on a approuvé les deux projets d'expansion de la ligne du métro Spadina dans la communauté urbaine de Toronto illustre bien qu'il est possible de trouver des solutions créatrices. Nous proposerons des modifications à la loi sur les condominiums afin d'améliorer les mesures législatives dépassées qui freinent le développement et protègent mal les consommateurs. Le code du travail sera remise à jour. Mon gouvernement révisera la loi sur l'aménagement du territoire de manière à augmenter le nombre de logements dans les sous-sols, un moyen économique d'accroître le stock de logements abordables dans la province et de créer des emplois dans l'industrie de la rénovation domiciliaire. L'investissement dans la population. Ce qui fait la force de l'Ontario, ce sont les Ontariens et les Ontariennes. Dans notre budget, nous publierons les détails d'une nouvelle stratégie qui contribuera à créer des milliers d'emplois dans les activités de pointe du secteur privé, en particulier dans la petite entreprise, tout en offrant de nouvelles perspectives en matière de formation. Cet ensemble de mesures permettra aux prestataires de l'aide sociale et aux travailleurs qui ont reçu toutes les prestations d'assurance chômage auxquelles ils avaient droit de retourner au travail. Dans le cadre de cette stratégie, nous augmenterons le nombre de places disponibles dans les garderies. Au cours de la présente session, nous déposerons un projet de loi qui fera de l'Ontario un chef de file dans le domaine de la formation. Grâce au Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main d'œuvre, dans le cadre d'un véritable partenariat économique, des représentants des syndicats assumeront la responsabilité de programmes de formation. La stratégie en matière d'investissement accordera un haut degré de priorité aux ententes de formation qui concilient la formation professionnelle avec les besoins du marché. Nous travaillons de pied ferme en vue de conclure avec l'industrie sidérurgique et avec les employés et employeurs du secteur des pièces automobiles de nouvelles ententes en vertu desquelles près de 30 000 travailleurs pourront bénéficier d'une formation. Les travaux sont en cours pour réformer et restructurer le système scolaire, y compris les programmes d'études, afin que les matières enseignées et les modes d'apprentissage soient plus compatibles avec le monde du travail et la société d'aujourd'hui. Les premiers effets de ces modifications seront visibles dès la première année scolaire. Le monde du travail en Ontario a changé, tant dans sa composition que dans sa fonction. les femmes, les membres des groupes minoritaires et les travailleurs à temps partiel apportent une contribution de plus en plus considérable à l'économie. Cependant, les règles qui régissent la main-d'œuvre n'ont pas évolué au même rythme. En fait, la loi sur les relations de travail n'a subi aucune modification depuis plus de 15 ans. Notre gouvernement a mené des consultations à propos de cette loi et il a écouté les conseils formulés par les représentants du monde des affaires et des syndicats. Des modifications fondées sur les résultats de ces consultations seront déposées au cours de la session. Bien des gens seront prêts à condamner le projet de loi et à dépenser des sommes importantes pour le faire. Notre gouvernement agira de façon responsable et raisonnable. Une économie ne peut être florissante et une société ne peut à juste titre se qualifier d'équitable si une partie de la population n'a pas droit à une participation pleine et entière par suite de discrimination. Des mesures législatives sur l'équité en matière d'emploi seront déposées au cours de la session. Si l'on s'attaque de front à la discrimination au travail, tous les Ontariens auront l'avantage, la possibilité d'apporter une contribution substantielle à leur milieu de travail. Nous serons plus en mesure de soutenir la concurrence dans une économie globale si nous faisons appel aux talents et aux compétences de toute la population. Pour dire les choses simplement, l'équité en matière d'emploi, c'est rentable. Pour concrétiser son engagement à l'écart de l'équité et du droit au revenu décent pour tous les travailleurs et travailleuses, le gouvernement adoptera des dispositions qui élargiront les mesures d'équité salariale pour tenir compte de 400 000 femmes qui n'étaient pas touchées par la loi initiale. Des services publics efficaces et moins coûteux. La situation économique de la province a forcé le gouvernement à prendre des décisions difficiles en ce qui a trait aux services qu'il offre et au financement que ces services requièrent. Il reste encore des décisions difficiles à prendre. Le budget fera état de la première étape d'une révision considérable des programmes du gouvernement, laquelle touchera pour ainsi dire toute la population. Pour restreindre les dépenses de fonctionnement du gouvernement, il nous faut prendre des mesures énergiques que c'est d'autres mesures, gel des salaires, économie dans l'exécution des programmes. Nous poursuivrons nos efforts dans ce sens. Comme nous l'avons mentionné lorsque nous avons accordé conseils scolaires aux universités, aux collèges, aux hôpitaux et aux municipalités, une des plus faibles augmentations des paiements de transfert qu'ils aient connues, les gouvernements doivent établir un équilibre entre le coût des services que la population attend et les sommes qu'ils sont en mesure de dépenser. Chaque dollar utilisé pour payer l'intérêt sur l'argent emprunté est un dollar qui peut servir à améliorer notre système de santé, à éduquer nos enfants ou à fournir un service indispensable. Nous maintenons notre engagement profond à l'égard des programmes sociaux et nous sommes disposés à payer notre juste part au sein de la Confédération, surtout en ce qui a trait à la péréquation. En retour, l'Ontario exige un traitement équitable en cette période où nous sommes témoins de changements sans précédent. En se soustrayant à la responsabilité qu'il avait assumée jusqu'ici en ce qui a trait à la part des dépenses au chapitre de santé, de l'aide sociale et de l'éducation, le gouvernement fédéral nous rend la partie difficile. Pour cet exercice seulement, la réduction des sommes versées par le gouvernement fédéral coûtera à l'Ontario 4,5 milliards de dollars, soit plus de 1 700 $ pour une famille moyenne de 4 personnes. Pour la population de l'Ontario, le gouvernement fédéral n'aurait pu choisir un pire moment pour restreindre les dépenses de façon aussi arbitraire et unilatérale. Des modifications apportées à l'assurance chômage, par exemple, ont accru de façon considérable nos dépenses en aide sociale au moment même où le gouvernement fédéral a réduit sa contribution à ces dépenses. Ces restrictions ont eu des conséquences néfastes pour les familles. Nos services publics se trouvent à la limite de leurs possibilités. Le gouvernement doit donc trouver les moyens de les sauvegarder. Notre gestion se doit d'être efficace et efficiente. Si cela s'avère nécessaire, nous prendrons des décisions qui s'imposent et soumettre certains secteurs à une restructuration en profondeur. Un grand nombre de ministres travaillent en étroite collaboration avec les secteurs touchés pour amorcer le processus parfois difficile qui vise à modifier la façon dont le gouvernement de l'Ontario fournit des services, de même que la façon dont on peut population peut y avoir accès. Ces démarches commencent à produire des résultats. Dans le secteur hospitalier, par exemple, des projets sont en cours pour transformer l'hôpital général Saint-Joseph de Guelph en établissement de soins de longue durée et pour faire de l'hôpital général de Guelph un établissement de soins actifs. Cette rationalisation des services favorisera l'acquisition de compétences et permettra de réaliser des économies. Au Women's College de Toronto, la direction de l'hôpital et la présidence d'un syndicat collaborent à la mise en œuvre de programmes innovateurs de recyclage, d'efficacité et de formation professionnelle. On a ainsi réalisé d'importantes économies sans effectuer de mise à pied ni de réduction de services. Ces exemples tangibles illustrent bien la tâche qui nous attend. Si nos efforts s'avèrent infructueux, nous n'aurons pas les moyens d'effectuer la réforme qui s'impose dans les domaines de services du garde d'enfants, de l'aide sociale et des soins de longue durée. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ajouter systématiquement des dépenses. Il faut mettre l'accent sur la réaffectation des ressources. Les relations de travail constituent un élément critique de notre programme. Il faut trouver des moyens pour les travailleurs et les représentants de participer de façon substantielle à la conception de nouveaux mécanismes de prestation des services d'excellente qualité que la population ontarienne mérite. La créativité dans la négociation collective peut permettre d'arriver à des solutions qui profitent à tout le monde, comme on l'a vu au moment de la négociation entre Hydro-Ontario et son personnel. Le gouvernement a la conviction que la province vaincra les difficultés économiques qu'elle connaît actuellement et s'en trouvera plus vigoureuse. Notre stratégie en matière d'investissement reconnaît que pour permettre à la province de recouvrer sa vitalité, les Ontariens devront faire preuve d'une profonde détermination ainsi que d'une grande volonté à travailler en collaboration pour atteindre nos objectifs communs. Si nous appliquons à bâtir ensemble un Ontario plus fort, nous saurons que nous avons apporté la plus grande contribution qui soit à l'édification d'un Canada fort et uni. Au nom de votre souveraine, je vous remercie. Que Dieu bénisse la Reine et le Canada.